Vivre FM podcast.
Midi 13h, Vivre FM, c'est vous.
Jean-Baptiste Bergès.
Dans Vivre FM, c'est vous, voici un nouveau témoignage de vie, celui de Sébastien Bossy-Crossi, aujourd'hui entrepreneur et journaliste, mais sa réussite professionnelle et son insertion dans la société n'a pas été de tout repos. Diagnostiqué enfant à haut potentiel ou enfant surdoué, sa différence lui a gâché son adolescence. Crise d'angoisse, hospitalisation, descente aux enfers, comment se construire et devenir adulte lorsqu'on ne cesse de vous faire remarquer que vous êtes différent? Malgré un parcours difficile, Sébastien s'en est sorti et désire aujourd'hui témoigner sur un sujet qui peut se révéler être un réel handicap pour ceux qui le vivent. On en parle maintenant dans Vivre FM, c'est vous. Sébastien Bossy-Crossi, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur l'antenne de Vivre FM. Sébastien, vous êtes entrepreneur, journaliste, vous dirigez un site d'information, site d'information numérique à Elgisberg Magazine, c'est bien ça?
Tout à fait.
Après avoir vécu une enfance et une adolescence mouvementées, Sébastien, vous avez enfin réussi à trouver votre place dans la société. Vous êtes aussi professeur au centre de formation des journalistes et vous avez décidé de témoigner de cette enfance mouvementée dans un livre qui s'intitule « Funambule, mon parcours d'enfant à haut potentiel ». C'est publié chez Tom Pouce. Pourquoi avoir eu envie d'écrire ce livre, Sébastien? Expliquez-nous.
Juste une précision, je suis étudiant en apprentissage au CFJ, pas encore professeur.
Pas encore professeur, excusez-moi, vous êtes encore étudiant, d'accord. Alors dans ce livre, vous témoignez donc de votre enfance, de votre adolescence, d'un enfant, c'est le témoignage d'un enfant intellectuellement précoce. Pourquoi avoir eu envie d'écrire sur ce sujet?
J'ai eu envie d'écrire sur le sujet parce que j'estimais que malheureusement parfois, tout ce qui entourait le haut potentiel intellectuel, qu'on appelle aussi surdoué, n'était pas vraiment bien compris du grand public. On a l'image d'un enfant trop intelligent qui du coup aurait pas de difficultés en classe, et c'est très rarement le cas. Il y a des précoces très heureux, mais il y en a aussi qui ne le sont pas, qui traversent des difficultés à l'école ou dans leur vie personnelle. Et le meilleur moyen pour moi de partager cette information-là, c'était de le faire à travers mon histoire.
D'accord, c'est un sujet qui est encore entouré de beaucoup d'idées reçues, de préjugés, qui est mal compris?
Tout à fait, c'est un sujet qui est mal compris parce que l'imaginaire collectif et l'opinion publique ont tendance à croire qu'un enfant précoce est un enfant surdoué, pour qui tout serait facile, qui arriverait à comprendre plus vite, apprendre plus vite, et qui réussirait forcément. En fait, c'est un enfant qui est porteur de plein de difficultés parce qu'il a des déséquilibres de maturité par rapport aux autres. Il est beaucoup plus sensible et toutes ces difficultés, ben, ça l'empêche d'être parfaitement heureux.
D'accord, donc ça peut se révéler être un handicap, cette différence-là, justement, pendant l'enfance et l'adolescence.
Alors, je ne sais pas si c'est un handicap, mais c'est du moins un facteur de difficulté. C'est quelque chose qui va avoir tendance à augmenter les difficultés par rapport aux autres. Mais ce que je voulais aussi dire, c'est qu'on pouvait s'en sortir après des difficultés, mais on peut s'en sortir. Et c'était un vrai message d'espoir pour moi, le livre.
Alors, votre témoignage, vous racontez que comme beaucoup d'enfants à haut potentiel, vous ne correspondiez pas au cliché des petits génies, difficultés aussi lorsque vous étiez confronté aux autres, la souffrance face au moule imposé par l'éducation. Tout ça ont engendré des crises d'angoisse, des hospitalisations à répétition. On suit votre récit de vie, votre affirmation de vous-même aussi. Vous avez dû, pendant toutes ces longues années, vous affirmer et réussir à vous faire une place dans la société, ça n'a pas été facile.
Exactement. J'avais une chance, c'est que je savais ce que je voulais faire. Je savais que je voulais être journaliste et je me disais, quoi qu'il arrive, il y a l'état malheureux, celui où on n'est pas épanoui, c'est pas un état normal. L'état normal, c'est d'aller bien, d'être heureux dans sa vie, avec les autres, avec ses amis. Et je me disais, je veux arriver à être journaliste, je veux être heureux parce que c'est comme ça que c'est censé se passer. Donc forcément, ça va aller mieux, il faut travailler, prendre son mal en patience, attendre d'avoir la maturité. Et quand toutes ces choses seront réunies, ben, ça ira bien.
Alors, c'est quoi un enfant à haut potentiel? Est-ce qu'on peut expliquer à nos auditeurs pour qu'on comprenne bien ce que c'est? On les appelle doués, surdoués, précoces, c'est ça? C'est la même chose?
Alors, c'est la même chose. Aujourd'hui, on a tendance à préférer au potentiel intellectuel parce que ça montre bien que c'est un potentiel. C'est quelque chose qu'on a, mais pour en profiter, bah, il faut du temps et il faut réussir à passer un certain nombre d'étapes. Un enfant au potentiel, c'est quelqu'un qui pense différemment. Il va être beaucoup plus sensible, il va parfois être très gamin, il va poser des questions un peu gamin, et puis dans le même temps, par exemple 10 minutes après, il va réussir à tenir une conversation très argumentée avec des adultes. Donc c'est un gamin qui est porteur en lui-même de plein de paradoxes. Et tous ces paradoxes, ben, ils sont compliqués. Ils sont compliqués à gérer par rapport à soi-même, parce qu'on se rend bien compte qu'il y a un décalage avec les autres. mais les autres se rendent compte qu'il y a ce décalage avec eux. Et du coup, bah, ils ne savent pas comment se positionner. Est-ce que cet enfant que j'ai en face de moi, qui est capable de me faire des réflexions hyper matures, c'est un enfant que je dois considérer comme un enfant de 15 ans, alors qu'il en a 10? Ou est-ce que c'est un enfant que je dois considérer comme un enfant plus jeune, parce que je sens bien que parfois il est plus sensible et plus touché par les autres, par certains événements de la vie active qui normalement sont anodins?
C'est cette particularité du coup qui rend souvent difficile son adaptation scolaire, par exemple.
Exactement. L'éducation nationale, c'est un moule qui veut former le maximum d'élèves possible et les emmener vers le bac. Sauf qu'un enfant au potentiel, c'est un enfant qui va penser différemment, qui va parfois avoir directement la réponse sans savoir parfaitement comment il a réussi à avoir la réponse. C'est comme s'il voit l'énoncé et tout de suite, il a la réponse. Mais il ne sait pas du tout détailler son fonctionnement et son raisonnement. Du coup, c'est ce genre de raisonnement que l'éducation nationale a du mal à gérer. Parce qu'habituellement, ce qui est compliqué, c'est de réussir à faire en sorte d'amener l'enfant, de l'énoncer vers la réponse. Mais elle ne sait pas comment faire quand l'enfant il a déjà la réponse. Et comme il est différent des autres, ce n'est pas évident de trouver une bonne manière de lui apprendre correctement comment y arriver.
C'est-à-dire que même les professeurs se retrouvent désarmés face à des enfants à haut potentiel?
Tout à fait. Ils sont démunis parce qu'ils n'ont pas forcément été formés sur le sujet, parce qu'on a énormément progressé ces dernières années, donc on comprend mieux ces enfants. Et surtout, ils ont tendance à avoir toujours cette croyance comme quoi un enfant précoce, c'est un enfant qui réussit bien. Alors quand on leur dit un enfant qui réussit pas bien et pourtant il a des capacités, ils ont du mal à comprendre. Et du coup, il faut pour eux qu'ils arrivent à avoir des tactiques, des techniques pour permettre à l'enfant de tirer pleinement parti de son potentiel. Sauf que ces éléments-là, c'est des éléments qui nécessitent de passer plus de temps sur le cas de l'enfant. Et malheureusement, les professeurs ont souvent des classes qui sont très nombreuses et ils n'ont pas forcément les ressources temporelles pour le faire.
Alors, parlons de vous, Sébastien, justement, votre enfance, votre scolarité au primaire, par exemple, quels souvenirs vous gardez de cette époque-là?
Grosso modo, jusqu'à l'école primaire, tout allait bien. J'étais un enfant souriant, qui posait plein de questions, mais il n'y avait pas forcément de mal-être ou de malaise. Arrivé en milieu de primaire, en CE2, j'ai commencé à beaucoup m'ennuyer en classe. Et j'étais du coup insupportable à la maison. En gros, j'étais pas bien à l'école. Comme je ne savais pas comment le dire, je le retranscrivais à la maison en étant insupportable. C'était ma sonnette d'alarme à moi. Mes parents ont compris qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Ils sont allés voir la maîtresse qui leur a dit « Faites le tester, peut-être qu'il est précoce. » Ce après quoi ils m'ont fait tester, on s'est rendu compte qu'en effet, j'étais un enfant précoce. On s'est dit « Bon, on reste vigilant. » Pour l'instant, ça va, il s'ennuie, mais ça va. On reste vigilant. Arrivé en 5e, j'avais un an d'avance. Là, ça allait plus du tout. Du jour au lendemain, je me suis mis à être très angoissé, à l'école, à la maison, et sans pouvoir dire d'où venaient les angoisses. J'étais angoissé, c'était des angoisses terribles qui me prenaient à la gorge et qui faisaient que je ne pouvais plus rien faire. Socialement, quand on est angoissé, on n'a pas envie de parler aux autres, on ne peut pas aller à l'école parce qu'on n'arrive pas à se concentrer. Donc j'ai été hospitalisé à plusieurs reprises, en hôpital spécialisé à Lyon. Et même à Lyon, les gens disaient on ne sait pas trop comment on peut régler ces angoisses. Donc j'avais un traitement médicamenteux pour me soulager. Et on m'a dit, il faut que tu prennes ton mal en patience. Donc je suis parti en internat dans un collège spécialisé, où tous les professeurs étaient tous formés à gérer des enfants précoces. On était une classe d'enfants précoces. Et assez miraculeusement, au bout de 3 mois, tout allait mieux. J'étais plus angoissé, je retournais en classe normalement.
Parce que vous étiez avec d'autres enfants comme vous, c'est ça?
Je pense qu'il y a des tas de choses qui ont participé à ça. Il y a d'abord le fait que j'ai pris la maturité nécessaire pour que tout ce qui avait pu se faire autour de moi en 5e quand j'allais pas bien, c'est-à-dire les hospitalisations, un suivi avec un psychanalyste régulier, et aussi simplement la maturité nécessaire et le fait que j'étais dans un environnement qui comprenait comment je fonctionnais et qui comprenait comment enseigner différemment pour que ça m'intéresse et que je me sente bien à l'école, probablement tout ça, ça a participé à ce que j'aille mieux.
Alors Sébastien, on reviendra en deuxième partie justement sur ces différentes épreuves que vous avez traversées durant votre scolarité, dues justement à votre différence. Mais revenons un petit peu sur cette maîtresse qui a dit à vos parents que vous étiez peut-être un enfant à haut potentiel. Sur quoi elle s'est basée? Qu'est-ce qui lui a fait dire ça?
Alors elle n'était pas forcément plus formée que les autres sur le sujet, mais il me semble qu'un de ses enfants l'était aussi. Et elle avait bien senti dans sa carrière d'enseignante, elle avait plusieurs dizaines d'années d'enseignement, qu'il y avait parfois des enfants différents, qui comprenaient plus vite ou moins vite. Et elle s'est dit, Sébastien, parfois il cogite très vite, et parfois il cogite beaucoup moins vite. Par exemple, j'avais passé des évaluations nationales, en mathématiques et en français, et parfois j'avais des très bons résultats, et d'un exercice à l'autre, j'avais des résultats qui étaient catastrophiques. Elle s'est dit, c'est quand même bizarre, ça me rappelle ces enfants précoces qui pensent différemment. Donc elle a recommandé à mes parents de me faire tester par une psychologue scolaire.
D'accord. C'est en rapport avec le niveau de votre QI aussi? Vous aviez un QI supérieur?
Alors, le QI ne change pas. Donc le chiffre que j'avais en CE2, c'est peu ou prou le même que j'ai toujours aujourd'hui. Je ne le connais pas parce qu'il n'a pas d'intérêt en soi. Ce qui compte, c'est que le QI va dire, voilà, cet enfant, il est précoce ou pas. Et surtout, il va dire, grâce au QI, on a fait une cartographie complète, en fait, de son fonctionnement intellectuel. Ses points forts, ses points faibles. Et grâce à ça, on peut dire, ben, regarde là, il a des points faibles, donc il faudra être vigilant et il faudra adopter cette attitude de réponse. Donc on dit que le QI, c'est une mesure de l'intelligence. C'est pas vrai. Parce que comme justement, il y a plusieurs éléments qui sont testés, et que le QI, c'est une moyenne, bah, parfois, elle peut être faussée. Si on est très bon quelque part et très mauvais à l'autre, ça a tendance à baisser la moyenne. Alors que si on est moyen plus partout, bah, la moyenne sera peut-être un peu supérieure. Donc ce qu'il faut au contraire sur le QI, c'est se rendre compte, un, qu'il y a des différences, deux, voir où est-ce qu'elles sont, et trois, bah, réussir à les identifier et à adopter des attitudes de réponse qui soient positives.
Oui, ça c'est peut-être une idée reçue qu'il faut combattre, c'est qu'être surdoué, être à haut potentiel ne signifie pas être plus intelligent que les autres, mais fonctionner avec un mode de pensée différent, c'est ça en fait.
Exactement. On dit souvent que les enfants intellectuellement précoces, ils ont une pensée en arborescence, en opposition avec la pensée linéaire. En gros, la pensée linéaire, c'est A plus B égale C. Et un enfant précoce, il voit A, et puis il va penser à B, à C, à D, à E. Il va avoir plein d'idées, il ne sait pas forcément faire le tri. Donc parfois, bah, c'est un plus, et parfois, au contraire, il va se perdre un peu dans toutes ces solutions, et il ne saura pas laquelle choisir.
Ce qui est important, donc, du coup, c'est lorsqu'on décèle cette différence, c'est d'accompagner l'enfant. Comment ont réagi vos parents à l'époque, lorsqu'ils ont appris que vous étiez un enfant à haut potentiel ?
Donc, ma mère est médecin, elle est pédiatre, et elle n'était pas beaucoup plus formée que la maîtresse ou que n'importe qui sur le sujet, parce que c'est quelque chose sur lequel on a appris fou récemment. Donc mes parents ont réagi en se disant, on en connaît pas, donc on va lire. Ils ont lu les quelques ouvrages qu'il y avait sur le sujet. Ma mère est allée à des conférences sur le sujet aussi pour essayer de comprendre, mais grosso modo, ils étaient tout aussi démunis. On leur a dit, votre enfant est précoce, mais ils ne comprenaient pas particulièrement tout ce que ça pouvait receler comme spécificité, et ils ne savaient pas non plus si j'allais aussi bien avoir des difficultés que des facilités plus tard. Mais ils se sont dit, voilà, on sait qu'il l'est, donc on reste attentif. Et si jamais on se rend compte qu'à un moment, il y a un malaise chez Sébastien, eh ben, on fera en sorte de le régler en ayant en tête cette différence.
Et vous, à cette époque, vous vous rendez compte de la différence que vous avez par rapport aux autres, par rapport au regard des autres, de vos camarades ?
À l'époque, je perçois que je finis mes exercices en gros avant les autres. C'est l'essentiel de la différence, et c'est aussi que parfois je m'ennuie un peu en classe, souvent même. Mais la différence envers les autres, moi je ne la perçois pas totalement, parce que j'ai pas non plus d'éléments de comparaison. Je suis l'aîné, j'avais des amis, j'avais pas de problème dans ma vie sociale. Je sentais que parfois j'étais mieux tout seul, mais je me suis jamais dit c'est pas normal. J'imagine que tout le monde est parfois mieux tout seul avec ses pensées qu'être tout le temps avec les autres. Et du coup, non, à l'époque, je perçois que je m'ennuie en classe, mais je perçois pas l'ampleur de ma différence et je la comprends pas non plus.
Sébastien Bossy-Crossy, restez avec nous dans un instant, la suite de cette émission Vivre FM, c'est vous qui vous est consacrée, et on continuera de parler de votre parcours de vie et de ce livre que vous venez nous présenter. Il s'intitule Funambule, mon parcours d'enfant à haut potentiel, c'est publié chez Tom Pouce. A tout de suite sur Vivre FM.
Midi 13h, Vivre FM, c'est vous,
Jean-Baptiste Bergès.
C'est la suite de Vivre FM, c'est vous, avec notre invité aujourd'hui, Sébastien Bossy-Crossy, entrepreneur, journaliste, auteur du livre Funambule, mon parcours d'enfant à haut potentiel. C'est publié chez Tom Pouce, un livre dans lequel vous racontez votre parcours d'enfant à haut potentiel, enfant surdoué. Vous racontez la souffrance face au moule imposé par l'éducation tout au long de votre enfance et adolescence, vos crises d'angoisse, les hospitalisations, mais aussi, c'est surtout un témoignage d'espoir pour rappeler que bien entouré, ces enfants peuvent réussir et s'en sortir. Et vous en êtes la preuve aujourd'hui, Sébastien, c'est ça le message de votre livre. Alors ce livre, il est préfacé par le docteur Olivier Revol, un pédopsychiatre qui vous a longtemps suivi. Il écrit « Ce joli témoignage vous emporte comme un roman ». Vous avez voulu l'écrire comme un roman, Sébastien, ce livre ?
Je me suis d'abord attaché à la véracité, c'est-à-dire faire en sorte que ça retrace du début à la fin les faits tels qu'ils se sont passés. Après, évidemment, quand on écrit un livre, c'est que le lecteur le lise du début à la fin et qu'il soit intéressé par le sujet. J'ai lu énormément de romans, j'ai toujours adoré lire, donc j'ai fait en sorte de rythmer, de trouver comment découper les chapitres, comment faire en sorte que le livre soit le plus agréable possible.
D'accord, c'était une envie de toujours d'écrire, pas forcément sur vous, mais d'écrire un livre, c'est quelque chose qui vous anime depuis longtemps ?
Oui, après, ça peut être très évident de se dire, j'ai envie d'écrire un livre. Je ne l'ai pas écrit en me disant, je veux écrire un livre. Je l'ai écrit d'abord pour témoigner, que j'ai publié sur Internet. Et c'est après, au fil des articles que j'ai publiés sur Internet qui retraçaient mon parcours, où j'ai eu des bons retours et on m'a dit, il faut que tu en fasses quelque chose, il faut le rendre disponible pour le plus de personnes possible. Et du coup, bah, c'est vrai qu'en faire un livre, c'était le moyen idéal pour ça.
Donc je disais que le docteur Olivier Revol va préfacer votre livre. Il vous a longtemps suivi. En quoi vous a-t-il aidé ? Expliquez-nous un petit peu justement dans votre émancipation et pour vous insérer dans la société.
Il m'a aidé parce que ça a été un repère en fait. Il m'a suivi depuis l'âge de 8-9 ans à peu près jusqu'à quasiment l'âge adulte. Tous les ans, j'avais rendez-vous avec lui, on faisait le bilan sur ce qui allait, ce qui n'allait pas, sur comment je me plaçais par rapport à cette différence, est-ce qu'elle impactait mon quotidien ou pas. Il me donnait des clés, des astuces pour que ça aille bien, que ça aille mieux. Et dans la période où je n'allais pas du tout bien, en cinquième, il m'a suivi beaucoup plus régulièrement, parce que c'est dans son service que j'ai été hospitalisé à Lyon, et c'est lui en fait qui chapeautait un peu le traitement autour de moi. Aussi bien le psychanalyste à Nîmes, que parfois j'avais des enseignants qui acceptaient de me donner cours pour que je continue à avoir prise sur l'école. Et du coup, c'est lui qui disait il faudrait faire ci, il faudrait faire ça pour que le traitement soit bien pensé et réfléchi du début à la fin.
Alors, vous nous avez expliqué tout à l'heure en première partie que on a commencé à déceler votre haut potentiel au primaire, mais que tout a basculé au collège. Pourquoi ? Qu'est-ce qui a fait qu'au collège, ça a basculé ? Expliquez-nous un petit peu.
Quand j'ai commencé à écrire ces témoignages, je me suis dit, je vais trouver qu'est-ce qui fait que ça a basculé. Qu'est-ce qui fait que du jour au lendemain, finalement, je me suis mis à être très angoissé. Et j'ai pas forcément réussi, après coup, à identifier ce moment précis. J'ai eu une très mauvaise expérience en colonie de vacances, mais je peux pas dire que ce soit à cause de ça que tout se soit mal passé. J'imagine que si ça s'est mal passé à un moment, si j'étais très malheureux, c'est parce que j'avais un ensemble de choses que dans mon inconscient s'additionnait, s'accumulait, et tout a explosé en cinquième, sans finalement que je m'explique précisément pourquoi.
Comment se caractérisent du coup vos angoisses au collège, là, en cinquième ?
Alors les angoisses, c'est quelque chose qui me prend à la gorge, qui fait que je peux plus parler. Alors je suis parfaitement conscient de ce qui m'entoure, hein. Je vois très bien que les gens sont inquiets et tout ça, mais moi j'arrive plus finalement à avoir de prise sur ma vie, quoi. Je suis handicapé par ces angoisses, elles me prennent, je sais pas comment m'en sortir, et surtout elles me prennent du réveil jusqu'au coucher le soir. Il n'y a pas de... Elles différenciaient pas que je sois à l'école, que je sois chez moi, que je sois en activité sportive. Elles me prenaient tout le temps, quoi qu'il arrive, et j'avais pas de solution pour m'en sortir.
Vous vous sentiez rejeté à l'école ? Vous n'arriviez pas à vous insérer en cinquième avec les autres élèves ?
Non, enfin, au collège, j'avais des amis. Je pense que j'étais pas parfaitement épanoui en classe, dans le sens où je m'ennuyais un peu. Mais je peux pas dire que ce soit la faute des autres. Si j'allais mal à un moment, c'est parce que j'allais mal. Et par contre, j'ai eu une attitude de défense qui fait que j'avais plus du tout en cours vu que j'étais très angoissé. Mais du coup, ce qui faisait que j'avais plus envie d'y retourner parce que j'avais peur du regard des autres. Du regard, ils allaient porter sur mes angoisses. C'est facile de dire à un enfant de 5e, il n'était pas là parce qu'il s'est cassé le bras. Quand tu reviens, tu as un plâtre. Mais il n'était pas là parce qu'il a des angoisses. C'est beaucoup plus compliqué à matérialiser pour un enfant. Et c'était ça qui me faisait énormément peur aussi.
À ce moment-là, est-ce que vous pouvez demander de l'aide ? Est-ce que vous avez demandé de l'aide ? À qui vous avez demandé de l'aide ?
Alors c'est un de mes amis proches qui m'a dit « Écoute, t'as pas l'air bien, tu devrais aller à l'infirmerie. » Et du coup, je suis allé à l'infirmerie. C'est la première fois que j'y suis allé. Je lui ai un peu expliqué que j'étais un enfant précoce et je sais pas trop si c'était lié avec mon mal-être du moment. Et après quoi, j'ai mes parents et du coup, j'ai été aidé par le docteur Revol, par mes parents, par des amis qui ont accepté de me prendre les cours, par des professeurs qui comprenaient ou qui faisaient de leur mieux pour essayer de me maintenir un pied dans le collège. J'ai eu de la chance d'être très bien entouré par des gens qui étaient... soit des connaisseurs du sujet, soit qui n'avaient pas d'a priori et qui voulaient faire en sorte que j'aille mieux.
Vous êtes hospitalisé, c'est à cette période-là que vous êtes hospitalisé, votre première hospitalisation à Lyon, à l'hôpital Pierre Vertemer ?
J'ai été hospitalisé environ un mois et demi après les angoisses. Donc quand je rentre à l'hôpital, je ne sais pas quand j'en sors. Je sais que j'y vais pour essayer d'aller mieux et pour voir pourquoi ça ne va pas. J'en sors au bout d'une dizaine de jours, donc je n'ai pas eu dans ce laps de temps de contact avec mes parents, avec l'extérieur. On est dans le service avec d'autres enfants qui vont pas bien, des anorexiques, d'autres enfants précoces. Ce qui paradoxalement fait beaucoup de bien, parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas les seuls en galère. Et en sortant du service, je me suis dit ça va aller mieux. Et en fait, ça allait pas mieux du tout. Je m'imaginais que c'était comme pour un plâtre, en fait, on te met un plâtre, et puis après, t'attends que ton bras se reconstruise et tout va mieux. C'était pas le cas du tout. En retournant au collège, j'avais toujours mes angoisses. et je voyais pas comment je pouvais aller mieux. Et
justement, comment on a essayé de vous soigner, pendant votre hospitalisation, qu'est-ce qui s'est passé, quels soins avez-vous eu?
Alors, pendant l'hospitalisation, essentiellement, on vit normalement, finalement. Enfin, on est avec d'autres enfants, on a une salle où on peut faire des jeux, dessiner, discuter, on peut regarder des films. C'est presque des vacances. On a parfois des enseignants qui viennent dans le service. On a des rendez-vous avec des psychologues. Mais en fait, on est toujours observé. On a des spécialistes dans le service qui observent nos réactions, ce qu'on fait, et qui essaient de trouver pourquoi on va pas bien. Et c'est ça aussi qui est déstabilisant, c'est que c'est pas on n'a pas une rééducation chez un kiné, c'est des rendez-vous parfois avec des psychologues, avec des pédiatres, mais grosso modo on nous laisse vivre, on nous laisse évoluer avec notre mal-être en se disant on va trouver qu'est-ce qui va pas bien, et dans le même temps on profite aussi d'être dans un cadre médical pour mettre au point un traitement médicamenteux qui permet de nous soulager. Moi ça a aussi été l'occasion de parfaitement doser le médicament qui m'a soulagé un peu quand j'allais pas bien.
Donc la première hospitalisation n'a rien donné, la deuxième hospitalisation, puisque vous êtes réhospitalisé plus tard, n'a rien donné, et puis vous allez dans un internat, c'est ça? Il s'agit d'un collège. C'était quoi la particularité de ce collège?
Donc la particularité de ce collège, c'est que c'est un collège privé sous contrat normal, sauf qu'il y avait deux cycles, un cycle en 3 ans et un cycle en 4 ans, donc une classe par niveau, en 6e, en 5e, en 4e et en 3e, dans lesquels cette classe était 100% composée d'enfants précoces, avec des professeurs qui étaient tous formés sur les spécificités de la précocité intellectuelle et sur comment enseigner à ces enfants différents.
Votre passage là-bas s'est bien passé, du coup?
Alors, il s'est très bien passé. Au départ, évidemment, c'était pas top. J'avais toujours des angoisses. Je comprenais pas surtout dans quelle mesure le fait d'aller dans un internat en Ardèche loin de chez moi ferait que j'irais mieux. Pour moi, si j'irais mieux, c'est parce que j'étais entouré de gens qui me connaissent et de proches. Et un peu contre toute attente, au bout de 2 mois et demi à peu près, je me suis mis à être moins angoissé, à aller en cours normalement et à aller mieux.
Donc du coup, c'est plutôt une bonne chose?
Ah oui, c'est une bonne chose. Mais le problème, c'est que ce genre d'établissement est très rare, trop rare, et il est soumis aussi, malheureusement, à la bonne volonté de l'équipe pédagogique. Si on a une équipe pédagogique qui comprend et qui est prête et apte à faire un enseignement différent et qui est volontaire pour se former, tout va bien. Mais c'est extrêmement compliqué aujourd'hui de trouver des professeurs qui sont prêts à se former et une direction d'établissement qui est prête à accorder le temps et les ressources pour ça.
Ce qu'on comprend aussi, c'est que c'est un véritable chemin du combattant pour les parents. Il semble que vous n'êtes pas aidé forcément par le système médical pour vous orienter, pour vous aider, et encore moins par le système, par l'éducation nationale.
Alors, on n'est pas aidé. L'éducation nationale a publié récemment des circulaires pour dire que la précocité intellectuelle devait être quelque chose qui devait être pris en compte par les enseignants comme une vraie différence qui nécessite des enseignements et de la pédagogie adaptée. Mais entre cette volonté qui est actée dans les textes et le fait de former des enseignants, c'est extrêmement compliqué. Et les parents sont complètement démunis parce qu'ils peuvent trouver des spécialistes qui comprennent quelque chose, qui sont aptes à fournir les bonnes réponses. C'est aussi un réseau qu'il faut réunir autour des spécialistes parce qu'il y a des problèmes de graphothérapie, il y a des problèmes de psychologie, il faut passer les tests. Et il faut aussi trouver des établissements qui ont des enseignants qui sont capables d'enseigner correctement des enfants précoces.
Est-ce qu'on peut préconiser une analyse peut-être avec un professionnel? Est-ce que vous-même, vous avez consulté?
Alors moi, évidemment, j'ai consulté, parce que les tests de QI qui permettent de dire qu'un enfant est précoce ou non, ils doivent être faits par un psychologue qui sait les faire, qui a été habilité, ou du moins qui a été formé pour les faire correctement. Et ensuite, moi, à partir de la 5e, j'ai été suivi par un psychanalyste à Nîmes, là encore quelqu'un qui connaît la précocité, qui m'a suivi pendant plusieurs années jusqu'à ce que j'aille mieux.
Pourquoi ça a été bénéfique pour vous, cette expérience?
Sur ce genre de choses, c'est toujours compliqué de dire précisément, concrètement, voilà, là il m'a dit ça et ça a permis ça. Mais avec le recul, étant donné que je vais bien, j'imagine que tout ce qu'il m'a dit a participé à une construction et à une prise de maturité qui fait qu'aujourd'hui ça va bien. Et c'est quelqu'un qui, dans tous les cas, m'a permis de mieux comprendre la différence et ma manière de fonctionner et de réfléchir.
Il vous a donné les clés pour vaincre les angoisses comme si on pouvait vaincre une autre maladie?
Il m'a donné des clés. Mais et là encore, c'est ce qui est hyper compliqué, c'est que ça doit venir aussi de nous. Et on peut pas dire, on peut pas mettre un pansement sur les angoisses. Il faut que ce soit aussi une construction qu'on a par nous-mêmes, avec l'aide justement de ce genre de spécialistes, qui fait qu'à un moment, ça peut aller mieux. Mais il faut être apte à les entendre et à les mettre en pratique au bon moment.
Aujourd'hui, Sébastien, vous allez mieux, vous continuez vos études. On parlera justement de ce que vous faites en ce moment et de vos différents projets. Restez avec nous, la suite de Vivre FM, c'est vous dans un instant. Et on continue évidemment de parler de ce livre qui s'intitule « Funambule, mon parcours d'enfant à haut potentiel ». C'est publié aux éditions Tom Pouce. A tout de suite sur Vivre FM.
Midi 13h, Vivre FM, c'est vous,
Jean-Baptiste Bergès.
C'est la suite de Vivre FM, c'est vous, avec notre invité aujourd'hui, Sébastien Bossy-Crossi, entrepreneur, journaliste et auteur du livre Funambule, mon parcours d'enfant à haut potentiel. C'est publié chez Tom Pouce, livre dans lequel vous racontez votre parcours d'enfant surdoué. C'est surtout un témoignage d'espoir pour rappeler que bien entouré, ces enfants différents peuvent réussir et s'en sortir. J'ai presque envie de dire, c'est presque quitte ou double, quoi. C'est soit on est bien entouré et le problème est pris au sérieux assez tôt, et là, on peut faire quelque chose de bien et s'insérer dans la société, soit ça peut être dramatique et sombrer et jamais trouver sa voie.
Bah, c'est malheureusement un peu vrai, donc c'est aussi pour ça que je vais sortir le livre, c'est pour dire au maximum de gens, regardez, il y a ces enfants un peu différents à côté de vous, ils ont l'air en difficulté, ils ont l'air de ne pas réussir en classe, mais peut-être qu'ils ont un vrai potentiel et que c'est juste qu'il faut leur tendre la main au bon moment.
Vous avez réussi donc du coup à vous en sortir, vous avez poursuivi vos études supérieures. Parlez-nous un petit peu de ce que vous avez fait donc du coup après cet internat dont vous nous avez parlé en deuxième partie d'émission.
Donc après j'ai passé mon brevet des collèges, je suis parti en lycée général à Avignon, j'ai passé un bac ES, j'ai passé des concours pour intégrer Sciences Po que j'ai raté. Du coup j'ai fait une double licence à Lyon en droit et sciences politiques que j'ai réussi râler pâquerette, et ce qui m'a après permis de partir un an au Canada, à l'étranger, pour faire une année dans une université américaine, canadienne. Et en même temps, j'ai lancé un média qui s'appelle Icheberg, qui essaie de traiter d'actualité un peu différemment sur Internet.
D'accord, c'est votre magazine, votre site Internet. Vous parliez des échecs, là. Est-ce qu'à un moment donné, ça vous a donné envie de baisser les bras, ces différents échecs, justement? Vous dites que vous avez eu mention bien au bac et vous n'étiez pas content, vous étiez blasé, vous étiez...
La mention bien au bac, c'est pas que j'étais pas content, mais c'est que j'étais un peu déçu d'être passé pas très loin de la mention très bien, et je trouvais que ça aurait été un joli pied de nez, comme j'avais souffert d'avoir la mention très bien au bac. Après, sur les échecs au concours Sciences Po, évidemment que c'est décevant et qu'à un moment on se dit, ben à quoi bon? J'ai surmonté des galères quand j'étais au collège, je suis parti de loin, et là je... C'est un concours qui décide ce que je ne vais pas pouvoir faire pendant les prochaines années. Donc je trouve ça très frustrant. Mais en même temps, je me suis dit, bon ben voilà, j'ai raté, c'est acté, c'est fait. Par contre, ça ne m'empêchera pas de devenir journaliste. Je veux être journaliste et on a de la chance. Aujourd'hui, c'est un métier qui permet encore d'avoir un spectre assez large de formation avant de pouvoir intégrer une école ou même de se lancer en freelance.
Vous poursuivez vos études d'ailleurs à l'ESJ, c'est ça? Enfin, le centre de formation des journalistes?
Oui, CFJ à Paris. Et du coup, oui, c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai essayé de faire une autre formation universitaire et après d'intégrer le CFJ normalement.
D'accord. Vous avez envie de vous spécialiser dans le journalisme? Il y a un domaine qui vous tient plus à cœur qu'un autre?
J'ai toujours été très curieux. Je voulais être journaliste parce que je me disais que je pouvais un jour m'intéresser à un domaine et à un autre domaine ou à d'autres questions. Donc pour l'instant, j'ai envie de rester plutôt généraliste. Mais j'ai une forte appétence pour tout ce qui est web et numérique, parce que j'ai grandi dedans, parce que quand j'étais en internat, le moyen de m'informer, c'était d'aller sur les ordinateurs du CDI, et on n'avait pas forcément la télé ou le 20h, ou la presse écrite. Donc plutôt envie de continuer à voir ce qui se passe sur Internet et d'essayer de tenter des choses sur Internet, mais de continuer à faire aussi de l'information aussi bien nationale qu'internationale et dans toutes les thématiques possibles.
Alors, dans votre livre, Sébastien, dans votre livre que vous venez nous présenter, qui s'intitule « Funambule, mon parcours d'enfant à haut potentiel », c'est publié chez Tom Pouce, vous faites une référence au film Harry Potter. Ça m'a un peu interpellé. Pour quelle raison? Est-ce que vous vous retrouvez en cet apprenti sorcier ou...
Non. Je pense que chaque enfant qui a lu Harry Potter s'est identifié à Harry Potter dans une certaine mesure. Moi, ce qui m'a marqué, c'est que, et c'est un peu la comparaison que je fais dans le livre, c'est de dire Harry Potter... Il a un don, lui, il est magicien, et finalement, si on ne lui donne pas les clés pour profiter de ce don, ben, ça ne sert à rien. Et il va avoir tout ça sans pouvoir mettre la main dessus. Et pour Harry, c'est simple, finalement. Pour canaliser la magie, il lui faut une baguette magique. Mais pour tous les enfants au potentiel, ben, ils n'ont pas cette baguette magique qui fait que d'un coup, ils arrivent à parfaitement canaliser leurs différences et en faire quelque chose de positif. Et du coup, c'est pour ça que j'ai voulu faire cette comparaison. C'est de dire, voilà, nous, on n'a pas la baguette magique, mais si on trouve les bonnes personnes au bon moment, si on prend aussi notre mal en patience malheureusement, et bien à un moment on peut en profiter, être tout aussi heureux qu'Harry est heureux à la fin des livres.
Voilà le message qui ressort aussi de votre livre qui s'intitule Funambule. Restez avec nous Sébastien, on va maintenant donner la parole aux auditeurs. Ils ont été quelques-uns à nous envoyer des questions et vous allez leur y répondre. On a une première question de Pascaline Devry. Elle vous demande si vos professeurs ont eu de l'empathie pour vous en raison de votre différence.
Certains oui, je dirais que la majorité ont eu de l'empathie pour moi. Certains non, parce que pareil dans la vie, il y a des gens qui font très bien leur métier, qui le font encore mieux. Et il y a des professeurs qui n'ont pas été préparés à cette différence, une différence qui pouvait aussi aller à l'encontre de leur idée d'éducation. Et du coup, ces enseignants-là étaient un peu moins empathiques que d'autres.
On a une autre question d'Alexandre de Paris 17e. Elle vous demande si la dernière réforme du collège va dans le bon sens. Est-ce que vous avez suivi un petit peu la réforme de l'éducation nationale ?
J'ai suivi un peu la réforme de l'éducation nationale. Elle va dans le bon sens dans une certaine mesure. Mais le véritable souci, c'est qu'aujourd'hui, une réforme, pour qu'elle soit effective, il faut qu'elle reste appliquée pendant plusieurs années, voire même plus de 10 ans. Et le problème, c'est que toutes ces réformes, chaque gouvernement veut laisser sa réforme. Et du coup, on ne laisse pas à chaque réforme la chance de pouvoir faire tout le positif qu'elle pourrait faire. Et c'est ça la vraie question, c'est est-ce qu'aujourd'hui on peut véritablement avoir une réforme qui va avoir l'effet pour lequel elle est prévue. Et le deuxième problème, c'est que la formation des professeurs est toujours aussi problématique et on se rend bien compte que des professeurs nécessitent d'être formés pour n'importe quel élève, mais aussi pour tous les enfants différents.
Et aujourd'hui, ils ne sont pas formés du tout pour les enfants différents et les enfants à haut potentiel.
Exactement. C'est un vrai problème.
On avait justement une question de Christine de Levallois qui vous demandait si vous aviez remarqué que les enfants à haut potentiel aujourd'hui sont mieux dépistés que dans le passé, qu'à votre époque, même si ça ne remonte pas à très loin. Mais est-ce qu'il y a une évolution ? Pas tellement.
Il y a une évolution parce que l'éducation nationale quand même prend mieux en compte la différence et on a des textes qui permettent de légitimer, de mettre en place autour de l'enfant un contrat pédagogique différent. Il y a aussi une évolution parce qu'on comprend bien mieux ses enfants. On a des études scientifiques qui permettent de comprendre leur fonctionnement, leur raisonnement. Ça, c'est très positif. Et enfin, on a quand même une opinion publique qui est un peu mieux alerte. Auparavant, c'était vraiment les surdoués. Aujourd'hui, on arrive à comprendre que certains enfants ne sont pas surdoués, mais qu'ils ont juste des difficultés. Donc non, dans l'ensemble, on a quand même énormément progressé ces 10 dernières années.
Avant de continuer les questions des auditeurs, Sébastien, est-ce que vous avez eu des retours de lecteurs justement suite à la parution de votre livre, des parents qui seraient confrontés à ce genre de situation ?
J'ai eu quelques retours, enfin plusieurs dizaines de retours, qui en tous étaient très enthousiasmants pour moi parce qu'ils étaient tous très positifs. Les parents, ils ont l'impression en lisant le livre de mieux comprendre leur enfant, de pouvoir mettre des mots sur des attitudes qu'ils avaient identifiées. Et surtout, ils se rendent bien compte que parfois, on peut être la tête dans le dos et pas forcément se dire « ça va aller mieux », et que pourtant, ça va mieux. Et j'en suis la preuve vivante, et ça leur donne énormément d'espoir pour l'avenir.
Donc c'était ça aussi l'objectif de votre livre, c'était de témoigner aussi pour ces parents qui se sentent aussi désarmés parce qu'ils ne sont pas informés, parce qu'ils se demandent ce qui se passe.
Exactement. Et on se rend bien compte que s'ils tombent sur le livre, à chaque fois, ils sont plutôt contents de l'avoir lu et ils en sortent enrichis. Donc c'est une vraie satisfaction.
Ce livre qui s'intitule Funambule, et c'est publié aux éditions Tom Pouce. On continue avec les questions des auditeurs. On a Alice de Montreuil qui vous demande si votre angoisse n'est pas liée à des problèmes psychologiques plutôt qu'à un excès d'intelligence.
L'angoisse n'était pas liée à un excès d'intelligence. On n'est pas trop intelligent. L'angoisse était liée à une différence.
C'est ça qu'on. Il faut bien qu'on. C'est encore des idées reçues qui ressortent sans arrêt sur ces enfants à haut potentiel. Hein.
C'est exactement ça. Il n'y a pas d'excès d'intelligence chez un enfant précoce. Il y a une différence. Et cette différence, elle va être dans sa manière de penser, mais aussi dans sa manière de ressentir les choses. On est parfois beaucoup plus sensible. Et ce qui, pour les autres, parfois, prendrait pas des proportions énormes, chez nous, ça en prend. Et en plus, il y a une dernière différence, c'est que quand chez un enfant non précoce, l'angoisse, elle est compartimentée, c'est-à-dire que tel type d'angoisse va rester tel type d'angoisse, chez un enfant précoce, tout se mélange. Et du coup, c'est encore plus fort. Donc, moi, le problème, c'était que ça, j'arrivais pas à le gérer, parce qu'en 10 ans, on est démunis pour gérer ce genre d'amas d'émotions. Mais ça n'a jamais été la faute d'une intelligence supérieure, ou non, c'était uniquement la faute d'une différence.
Autre question de Fabrice de Paris 19e, il voudrait savoir si, aujourd'hui encore, votre différence vous cause des difficultés pour tisser du lien social.
Je pense pas qu'aujourd'hui encore ça nous cause des difficultés pour tisser du lien social. C'est beaucoup moins prégnant que ça ne l'était auparavant, parce que j'ai réussi moi à être suffisamment mature pour faire la part des choses, pour apprendre aussi à équilibrer toutes ces différences et tous ces déséquilibres éventuels. Et après, dans le lien social, en grandissant, on arrive aussi à se rendre compte que telle personne, on est plutôt proche d'elle et on a des atomes crochus et d'autres moins. Donc ça, par contre, en grandissant, je m'en suis rendu compte aussi.
On a une autre question d'Emma de Paris, 15e, ce sera la dernière. Elle vous demande du coup concrètement comment on peut venir en aide aux enfants précoces. Si on devait synthétiser cette émission-là, la première chose, c'est déjà de les écouter, de prendre en compte leurs différences et leurs problèmes.
La première chose à faire, c'est de l'identifier, de se rendre compte que cet enfant, il n'est pas débile, il est différent, il est peut-être enfant précoce. Ensuite, c'est de le faire tester par quelqu'un qui connaît le fonctionnement des enfants et qui sait les tester. Puis après, de mettre en place, en accord avec justement ce spécialiste, ce psychologue, ce psychanalyste, ce psychiatre, mettre en place un suivi qui soit adapté et qui corresponde aux besoins de l'enfant. Mais ce qui est essentiel, c'est de comprendre qu'ils sont différents, qu'ils ne sont pas forcément plus intelligents, que ce sont juste des enfants qui pensent différemment.
Et les enfants, des conseils pour les enfants justement qui sont concernés comme vous l'avez été, comment gérer cette situation et cette différence ?
Il faut faire de son mieux. Il n'y a pas de solution miracle. Ça peut durer quelques années d'être malheureux, mais ça va mieux à la fin. Parce qu'il y a tous ces déséquilibres, ils finissent par se résorber et on finit par réussir à les équilibrer correctement. Donc ce qu'il faut, c'est quand on en a besoin, faire appel à des gens qui sont plus compétents, qui sont des professionnels, qui peuvent nous aider à passer des mauvaises périodes. Et pour le reste, faire mieux, se dire que ça ira mieux et que de toute façon, on n'est pas destiné à être malheureux à l'écart des autres. Ce qui compte, c'est d'y croire et de faire confiance aux gens aussi qui nous disent quoi faire et comment le faire quand ils sont spécialisés sur la question.
Voilà, y croire, faire confiance aux gens et tout l'espoir se trouve et se résume dans ce livre qui s'intitule Funambule, mon parcours d'enfant à haut potentiel. C'est publié aux éditions Tempus que je conseille à tous les auditeurs. Merci beaucoup Sébastien Bossy-Crossi d'être venu témoigner sur l'antenne de Vivre FM et je rappelle aussi votre site d'information numérique LG Iceberg Magazine où on peut retrouver des articles que vous écrivez vous-même, c'est ça ?
Oui, des articles que j'écris moi ou d'autres journalistes indépendants qui nous écrivent ces articles.
Sur des thèmes précis,
Alors le site veut publier des histoires qui comptent et qui se passent uniquement à l'étranger. On sort de la France et on essaie de trouver au bout du monde ou dans d'autres pays européens des histoires qui peuvent éclairer ce qui fait notre monde aujourd'hui. Ses difficultés, mais aussi parfois quand ça va bien.
Voilà, LG Iceberg Magazine. Merci beaucoup Sébastien Bossy-Crossi d'être venu sur l'antenne de Vivre FM. À très bientôt, au revoir.
Merci à vous, au revoir.
Vivre FM, podcast.